l'exorcisme n'appelle pas le diable, mais le révèle. Des coups, des griffures, des odeurs. On n'a pas à parler au diable, sinon pour lui dire « casse-toi ». Plus on a peur, plus l'emprise diabolique est grande sur nous. J'ai beaucoup plus foi en Dieu que peur du diable.
Bonjour à tous, bienvenue sur Amen. Je vous ai demandé il y a quelques jours sur Instagram d'envoyer les questions que vous poseriez à un prêtre exorciste. Et aujourd'hui, je suis à Argenteuil avec le père Guy-Emmanuel Cario, qui est exorciste, pour lui poser toutes vos questions. Mon père, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview.
Avec grande joie.
Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, nous dire depuis combien de temps vous êtes prêtre et depuis combien de temps vous êtes exorciste aussi?
Alors donc je suis le père Guy-Emmanuel Cario, j'ai été ordonné prêtre en 1996, ça fait longtemps déjà quand même, pour le diocèse de Pontoise, et je suis prêtre exorciste depuis 2015. Donc ça fait quelques années déjà maintenant. Et je suis recteur de la basilique d'Argenteuil. Alors c'est une basilique un peu connue parce que elle abrite la sainte tunique du Christ, c'est-à-dire la tunique que portait Jésus pendant le chemin de croix. Donc voilà, il y a des grands pèlerinages qui s'appellent des ostensions, une qui a eu lieu en 2016, c'est pour ça que j'ai été nommé pour la préparer, et puis une qui va avoir lieu en 2025, mais on en reparlera sûrement.
Ouais, génial, ça sera peut-être l'occasion de faire
oui.
une autre vidéo. Comment on devient prêtre exorciste? Est-ce qu'on est déjà obligé d'être prêtre? Est-ce qu'un laïc peut être exorciste? Et sinon, comment on devient exorciste?
Dans l'Église catholique, les exorcistes sont prêtres. Ça, c'est obligatoire. Et normalement, il y a un exorciste par diocèse. Bon, l'évêque propose à un prêtre qu'il estime assez sage et pour le faire. Moi, le jour où il m'a annoncé ça, je me suis demandé ce qu'il avait mangé au petit déjeuner. Et ça, j'ai été terrorisé par cette annonce.
Ça alors, vous a fait peur au début?
J'avais le choix de dire non, évidemment. Mm. Il m'a proposé ça. Et puis, j'ai accepté parce que je pense que j'étais le premier exorciste dans le diocèse. Il n'y avait pas d'exorciste avant moi. Et je me suis dit, si je refuse, peut-être qu'il ne va pas le confier à quelqu'un d'autre. Donc, j'ai dit oui parce que je pense qu'il y a, une vraie utilité de l'exorcisme. Et puis, plus globalement, du service de l'exorcisme, c'est-à-dire d'accueillir des gens quand même qui ont vraiment besoin de ce type d'écoute et de discernement. Voilà.
D'accord. Et est-ce qu'il y a donc une formation quand on est nommé exorciste et que ça nous tombe un peu dessus comme vous?
C'est ça le gros problème, c'est que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de formation en fait. Et je me souviens très bien, je lui ai dit « mais où est-ce qu'on peut se former ?» Il m'a dit « j'en sais rien du tout ». Alors je suis allé me former chez d'autres exorcistes en fait, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup travaillé, et puis je suis allé me former un peu pratiquement, à la fois à l'écoute, parce qu'il y a des entretiens, etc., et puis aussi à la célébration même de l'exorcisme, auprès des exorcistes de Paris, je suis allé, mais aussi chez d'autres. Il y a aussi des colloques qui ont lieu au niveau national et international. Je vais aller à Rome au mois de septembre, on sera plus de 1000, enfin, pour 4 jours, ça va être formidable.
Okay, voilà, donc vous êtes quand même entouré et puis vous avez cette liberté ou non de dire oui ou non à cette
mission. Bien sûr.
Et alors, en quoi elle consiste concrètement cette mission de prêtre exorciste? Parce qu'on la connaît presque plus par les films d'horreur qu'en réalité. Et en quoi, c'est quoi être prêtre exorciste?
Alors, un prêtre exorciste, c'est un prêtre à qui son évêque demande de faire l'exorcisme. C'est-à-dire, l'exorcisme, c'est un rituel qui est ici, vous voyez. Rituel de l'exorcisme, hein, et qui est utilisé sur les gens qui sont possédés. On va en reparler peut-être tout à l'heure, mais plus globalement, j'ai envie de dire que toute l'Église est exorciste d'une certaine manière. C'est-à-dire, l'Écriture nous dit que Jésus est venu pour chasser et détruire les œuvres du diable, mais c'est ce que fait l'Église. Quand on baptise, quand on annonce la parole de Dieu à la messe, mais déjà ça chasse les démons, ça chasse tout ce qui s'oppose à Dieu. Et puis tous nos efforts personnels, enfin je pense à ceux qui vont écouter cet entretien, chacun fait l'expérience de sa propre vie, qu'il peut choisir le bien, qu'il peut choisir Dieu, et choisir Dieu, c'est renoncer au mal. Voilà, donc toute l'Église est un peu dans la forme de l'exorcisme à la suite de Jésus. Il y a quand même 14 exorcismes dans l'Évangile. Jésus chasse les démons. Dès qu'il apparaît quelque part, hop, les démons se révèlent. Qui es-tu? Es-tu le Fils de Dieu? Voilà. Et dehors. Un évangéliste nous dit, D'une parole, il chassait les démons. Nous, on a quand même tout un livre pour le faire, mais
lui,
d'une parole, il le faisait. Donc, c'est à la suite de Jésus. Donc, il n'y a pas besoin d'une ordination spéciale. Tout prêtre est exorciste, en fait, mais un seul, celui à qui l'évêque demande, a le droit de prononcer le grand exorcisme.
D'accord, vous avez parlé du démon, des démons. Est-ce qu'on peut, j'aimerais qu'on peut-être on s'attarde un peu là-dessus, sur finalement qui est le diable? Parce qu'on peut s'imaginer, enfin en tout cas certains s'imaginent que le diable c'est une entité un peu fictive créée par l'homme, parfois peut-être pour se justifier aussi la part de mal qu'il y a en nous. Qui est le diable finalement?
Ma réponse en tous les cas, c'est qu'on se fonde sur les Saintes Écritures qui parlent de l'adversaire, qui parlent de l'ennemi. Comme d'un être personnel et non pas un symbole, non pas une construction, etc. Je sais bien qu'il y a eu des constructions imaginatives autour du diable jusqu'à Hollywood, qui est vraiment au top du top là-dessus. Il y en a eu au Moyen-Âge, etc. Mais dans l'Écriture, on a la présence du diable, surtout dans les évangiles. Moins dans l'Ancien Testament, un peu dans l'Ancien Testament, mais beaucoup dans les évangiles. Et on voit bien, dès le début de la vie publique de Jésus, c'est le moment des tentations au désert, où Jésus s'adresse au diable. Arrière Satan, tu ne te prosterneras que devant ton Dieu, etc. etc. Mm-hmm. Donc nous, on parle bien de cela. Alors, qui est Satan? C'est un ange déchu, c'est-à-dire le prince des anges, Lucifer, qui est chassé du ciel, sans doute par jalousie du projet que Dieu a pour les hommes, en fait. Parce que le projet que Dieu a pour les hommes, et c'est ça le plus important, eh bien, c'est de faire de nous ses fils et ses filles. Voilà. Alors qu'il n'a jamais proposé ça à Lucifer, ni aux autres anges. Les anges sont des êtres qui nous sont supérieurs aujourd'hui, mais qui ultimement nous serviront tous. Et les bons anges sont ravis de cette perspective. Mais lui, qui était le plus beau des anges, dit, mais c'est pas possible, des êtres si misérables, tu veux en faire tes fils, c'est lamentable. Donc non. Et ben dehors, voilà. Donc voilà, voilà comment on exprime ça. J'ai bien conscience que dire ça, ça reste mystérieux. Hein. Mais de fait, ça situe bien les choses. Ça veut dire, le diable n'est pas un dieu, c'est une créature. C'est très important. Il n'y a pas d'un côté... J'ai vu il y a quelques années, peut-être que certaines personnes qui nous regardent aujourd'hui l'ont vu aussi, sur un site évangélique, j'avais vu un dessin américain, vraisemblablement, pour parler du combat spirituel. Et on voyait un horrible diable rouge, musclé, et un beau Jésus musclé, et il faisait le bras de fer. Mais c'est absolument faux comme manière de voir les choses. C'est-à-dire... il n'y a pas un dieu du mal, un dieu du bien qui se font face comme ça. Il y a Dieu qui règne au-dessus de tout, et puis le serpent en bas qui fait du bazar, je suis bien d'accord, mais qui n'est pas Dieu et qui n'est pas tout puissant. Seul Dieu est tout puissant. Mmh. On ne doit pas les mettre sur le même plan du tout.
Et donc Satan a aussi emporté avec lui des anges déchus, parce que vous avez dit les démons. En fait, qui sont ces autres démons?
Voilà, c'est d'autres anges, c'est le livre de l'Apocalypse qui en parle, nous donnant même un chiffre exact. Bon, alors ça reste un peu codé, l'Apocalypse, mais pour dire, oui, il n'est pas tout seul en enfer. Voilà.
Alors, il y a une question qui est venue sur Instagram, moi je ne m'y attendais pas du tout et je n'y avais jamais pensé. Quelqu'un a demandé s'il est possible que le diable se convertisse, puisqu'il est un ange déchu. Est-ce qu'il est possible qu'il revienne à la lumière?
Alors, la réponse est claire, c'est non. C'est-à-dire, l'ange, contrairement à l'homme, a une liberté à usage unique. C'est-à-dire, il engage toute sa liberté une seule fois.
Voilà. D'accord.
Il n'a pas de corps, il n'y a pas la durée en lui. Nous, on a la durée. Pour nous, c'est une bénédiction, parce qu'on peut faire beaucoup de choses mauvaises dans sa vie, mais on peut aussi se retourner. Il y a toujours une espérance, vous voyez. Pour lui, il n'y a aucune espérance à avoir. Il est perdu éternellement dans son rejet de Dieu.
Et alors, comment le diable se manifeste concrètement dans la vie des gens?
L'expérience de la tentation, on la fait tous. On fait tous l'expérience de la tentation, on sait où est le bien, et pourtant, voilà, on imagine, et petit à petit, on se laisse avoir. Voilà. On fait l'expérience aussi de quelque chose qui nous parle à l'oreille, en disant, oui, c'est vrai que tu as dit ça, mais ça serait peut-être pas mal de faire ça par derrière et tout ça. Mm-hmm. Donc, on fait cette expérience. Comment le diable se manifeste? Il se manifeste par tout ce qui va contre l'unité du genre humain. l'unité de la famille, l'unité des couples, l'unité des nations, l'unité des uns et des autres. Enfin, on voit bien toutes les tendances de haine, de rejet, de mépris, d'indifférence, d'égoïsme, de violence. La violence, particulièrement, a lieu préféré de Satan, je pense, hein. Mais aussi l'indifférence, le fait de dire bah, finalement tout se vaut, tout est pareil, etc. Mais là, il y a quand même des germes terribles, diaboliques en fait.
Et est-ce que à chaque fois qu'on refuse le bien, il y a forcément l'action du mal derrière, du diable?
Alors, le diable n'est pas capable d'agir à notre place. C'est nous qui agissons, hein. Il n'est pas capable de nous faire choisir le mal, mais sa grande puissance se révèle dans son pouvoir de suggestion. C'est-à-dire, c'est un bon communicant, si je puis dire, parce qu'il arrive à nous faire passer le bien pour le mal pour le bien, et voilà. Ensuite, mais nous, on a notre discernement, on a notre liberté, et c'est toujours notre liberté, ultimement, qui va agir. Le diable ne peut pas nous faire pécher directement, il nous fait pécher comme celui qui suggère, mais pas comme celui qui agit, voilà.
D'accord. Et alors, les gens, concrètement, qui viennent vous voir, quels sont les problèmes qu'ils rencontrent?
Alors, il y a plusieurs types de problèmes, en fait. Souvent, c'est des gens qui vont mal, quand même. Donc, c'est un peu en boule de neige. Il y a beaucoup de choses qui vont mal dans leur vie. Un peu des blocages, des blocages pour aimer, surtout. Souvent des gens entendent des choses, sentent des choses dans leur corps, des attaques, hein, des coups, des griffures, des odeurs, des visions, des ressentis, n'arrivent plus à prier, ou ils viennent parce que leur vie est en train de s'effondrer, au niveau professionnel c'est la catastrophe, au niveau familial c'est la catastrophe, etc., etc. Donc, Je préviens votre prochaine question. Évidemment, est-ce que tout ça est diabolique? Non. De temps en temps, voilà, leur vie est en état d'échec pour plein de raisons qui ne sont pas du tout forcément diaboliques.
Ouais.
Elles peuvent l'être, mais voilà. Alors moi, j'écoute longuement, vraiment longuement. Je relis un peu ce que j'ai écrit avec eux pour vraiment m'assurer que à bien avoir compris ce qu'ils disaient. Et puis, bah, j'essaye de poser un discernement à la fin sur ce qui leur arrive. Et c'est moi qui dois exprimer au bout d'un moment si c'est d'origine maléfique ou non. Donc, mais j'essaye d'agir avec lenteur.
Ouais.
Et puis, justement aussi, de les renforcer. Et ils ressortent souvent de chez moi avec du travail à faire.
D'accord.
Un travail de retour à la foi, d'abord. Donc, d'aller à la messe, se confesser s'ils ne l'ont pas fait depuis 1000 ans, faire des actes de charité, parce que de temps en temps, il y a des gens qui viennent me voir qui vont tellement mal, qui n'ont parlé à personne depuis 6 mois, vous voyez, mais on ne peut pas s'en sortir comme ça. Faire un acte de charité, prendre des nouvelles de leurs proches, enfin, tout un tas de choses comme ça. Voilà. Et puis, je les revois quelques semaines après. On essaye de faire le bilan. J'ai aussi une petite méthode que j'ai synthétisée dans un livre qui s'appelle La Citadelle Imprenable, qui est paru...
Classement de produit, je mettrai l'affiche.
Classement de produit, ouais, merci.
Je mettrai l'affiche.
Et qui est une méthode toute simple qui aide la liberté des gens à tout de suite se tourner vers Dieu quand ils sont en face de leur ennemi. Et leur ennemi, c'est tout ce qui leur fait du mal, en fait. Donc, ce n'est pas forcément l'ennemi avec un grand E, le diable, mais tout ce qui nous fait du mal... il est temps de s'en séparer. Et on a le pouvoir chacun de faire ça. Les gens viennent, ils sont souvent très angoissés en fait, à cause des sortilèges, à cause des maléfices, à cause des choses qu'ils vivent et qui sont terribles. Hein. Moi je les écoute avec vraiment en pleurant intérieurement souvent, tellement ils souffrent d'agressions intérieures et tout ça, alors qu'ils peuvent être psychologiques de temps en temps, mais ça ne m'empêche pas de pleurer intérieurement parce que c'est aussi très dur. J'essaye quand même de les rassurer. Alors, je vais vous expliquer comment. T'entends, les gens me disent voilà, ben je ressens ça, j'entends ça, et c'est très violent, ça vient sûrement de mon voisin qui m'a fait un rituel contre moi et tout ça. Moi, j'écoute, très bien. Et, ok, je leur dis très bien, votre voisin a fait un rituel contre vous, et vous en souffrez beaucoup. J'entends ça. Mais vous ne me parlez pas du tout de votre condition de baptisé. Or, c'est quoi être baptisé? Être baptisé, c'est être passé par la mort et la résurrection de Jésus. Vous êtes baptisé, vous êtes enfant du Père éternel, frère de Jésus-Christ, temple du Saint-Esprit, enfant bien-aimé de la Sainte Vierge, important la Sainte Vierge, protégé par les anges et les archanges, protégé par l'Assemblée des Saints, protégé par la puissance de prière de l'Église catholique. Alors, on a d'un côté le sortilège vaudou ou breton, et de l'autre, on a tout ça. Mais qu'est-ce qui pèse le plus? Ben, c'est ça qui pèse le plus. C'est le fait d'être frère et sœur de Jésus-Christ, c'est ça. Et donc, il faut prendre conscience de cela, parce que finalement, les rites, les rituels, ne tirent pas leur puissance d'eux-mêmes. Ils tirent leur puissance du diable et de la peur que nous en avons. Plus on a peur, plus l'emprise diabolique est grande sur nous. Moins on a peur, eh ben moins elle est forte. Le pape Jean-Paul II, il recevait des centaines de sortilèges par semaine. Dans les lettres qu'il recevait au Vatican, il y avait des sortilèges. Eh ben, il a l'air d'aller très bien. Ça s'écrasait sur lui comme une vague sur un rocher, et ça partait. Parce que lui, il était fixé sur Jésus-Christ. Donc, il y a tout un travail à faire aussi avec les gens là-dessus pour les aider aussi à sortir de la peur. Et ça, c'est fondamental.
D'accord. Et vous disiez donc que ça passe pas mal par l'écoute, le fait de le discernement, pour savoir si de fait c'est plutôt psychologique ou si ça relève vraiment du mal. Est-ce qu'il y a quand même des symptômes, je dirais, qui sont, où on sait vraiment que vous reconnaissez comme étant des signes de la présence du diable dans une personne qui est vraiment possédée, quoi?
Il y a toujours besoin de discernement. Les signes ne suffisent jamais à cause justement aussi de... Un certain nombre de ces signes peuvent se retrouver en psychiatrie, etc. Alors moi, je ne suis pas psychiatre, je ne pose jamais de diagnostic. De temps en temps, ça m'arrive de conseiller aux gens d'aller voir un psychiatre parce que je sens... Parce que, voilà. Mais je ne suis pas psy, donc je ne pose pas de... Je ne dis pas aux gens, vous souffrez sûrement de paranoïa, etc. Ce n'est pas à moi de discerner ça, donc je les renvoie de temps en temps où je leur dis, c'est bien aussi que vous voyez un psychiatre. Je veux bien continuer à vous voir, mais vous voyez aussi un psychiatre. Alors, il y a des signes, oui, il y a des signes, par exemple, le dégoût des choses de Dieu, des gens qui vont trembler devant une croix ou devant une image, une belle image de la Vierge, et qui vont perdre tous leurs moyens, rentrer en transe là-dessus. Bon, ben, ça, c'est des choses qui peuvent permettre de discerner, c'est des choses qu'on voit pendant la célébration de l'exorcisme aussi, se manifester à ce moment-là. Et ben là, en général, ça vient conforter un peu le discernement que j'avais pu poser avant, en disant j'ai eu raison de faire l'exorcisme, parce qu'il y a eu un certain nombre de choses qui se sont manifestées à ce moment-là.
D'accord, et alors quand est-ce que vous décidez vraiment d'exorciser quelqu'un? Quand est-ce que vous jugez que ça y est, il faut exorciser? Et est-ce que ça arrive souvent,
en fait, alors non, ça arrive assez peu. En fait, je suis à peu près un ou deux exorcismes, ou trois par mois maximum.
D'accord.
Mais je reçois 4 ou 5 personnes par jour. Donc voilà. Alors ensuite, il n'y a pas que l'exorcisme. Il y a aussi des prières de libération qu'on peut faire, des prières de guérison, des prières de délivrance. Donc on n'a pas que l'exorcisme dans comme arme, on a aussi d'autres prières qui sont plus adaptées. Par exemple, les gens qui disent j'ai des attaques la nuit, je me réveille toutes les nuits à telle heure et puis j'entends des choses ou je sens des choses sur moi qui bougent et tout ça, et là ils n'ont pas forcément besoin d'exorcisme, ces gens-là, parce que ce dont ils parlent là, on appelle ça des vexations diaboliques. Mais ce n'est pas la possession. La possession, c'est quand on a l'impression que le corps est pris entièrement, en fait, et que le diable semble, je dis bien semble, être à la barre du corps. Alors, en fait, c'est important de comprendre ça. Le diable ne peut jamais pénétrer l'âme spirituelle de quelqu'un. Et ça, c'est une grande grâce pour les gens qui souffrent, en disant, au moins mon âme restera le cénacle fermé un peu dans les mains de Dieu et pas dans les mains du diable. Donc, il ne peut jamais vraiment posséder quelqu'un à 100%. Il peut sembler posséder quelqu'un à 100%, hein, mais il agit comme de l'intérieur, mais pas de l'intérieur vraiment.
Ok, d'accord. Et alors, comment il se passe l'exorcisme? Comment ça se passe un exorcisme?
Alors, l'exorcisme se passe, d'abord c'est un rituel, donc on ne fait pas ce qu'on veut, on essaye de suivre un rituel de la manière la plus fidèle possible, hein, donc ça commence par un signe de croix, par l'aspersion d'eau bénite, et puis ensuite il y a une longue litanie des saints, on va prier les saints, on se met à genoux. Alors moi, en général, je rajoute un chant au Saint-Esprit avant, comme ça. Je demande au Saint-Esprit aussi de m'aider et puis d'aider cette pauvre personne qui est malmenée vraiment tourmentée par le démon et que j'ai envie de libérer parce que je suis un prêtre et j'ai envie de faire du bien aux gens et qu'ils viennent pour ça. Donc voilà, donc litanie des saints, où on implore un peu la communion des saints aussi sur nous tous, c'est une belle prière. Ensuite, il y a une liturgie de la parole, parce que la parole de Dieu est vraiment important, donc on lit un psaume, on lit un évangile. Ouais, le prêtre en général est avec l'étole violette et l'aube ou le surplis. Enfin, voilà, c'est une célébration liturgique. Hein, c'est pas la liturgie du Père Cariot qui a décidé qu'aujourd'hui on allait faire ceci ou cela. Non, on suit un ordre. Il y a un ordre. Et d'ailleurs, ça nous protège aussi parce qu'on ne fait pas n'importe quoi comme ça. Ensuite, il y a une imposition des mains. Sur la tête de la personne tourmentée, avec une prière qui se lit. Ensuite, on va l'interroger sur la foi. Vous savez, c'est exactement comme lorsqu'on est baptisé, en fait, il y a une triple renonciation au mal. On dit ça aux catéchumènes, par exemple, à la vigile pascale, on dit rejetez-vous Satan, oui, rejetez-vous ses œuvres, renoncez-vous, etc. Et puis ensuite, il y a la triple profession de foi. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant? Oui. Croyez-vous au Saint-Esprit, au Fils? Oui. Au Saint-Esprit? Oui. Et puis après, on montre la croix, et ensuite viennent les formules d'exorcisme. Donc, il y a d'abord une formule déprécative, c'est-à-dire c'est une prière qu'on fait à Dieu, Seigneur. Viens libérer ton serviteur, ta servante, des liens qui l'accablent, etc. Donc c'est assez long, ça fait. Voilà. Et puis ensuite, une prière impérative où le prêtre s'adresse au diable. Il dit, je t'adjure, va-t'en, etc. Voilà. Donc, et on a trois formulaires comme ça, déprécatif, impératif, qu'on peut prendre à la suite quand on sent que c'est nécessaire. Voilà.
D'accord. Et
Et
moi, je.
on termine par une prière d'action de grâce à la fin.
D'accord. J'ai l'image et
J'ai oublié le Notre
peut-être.
Père. J'ai oublié.
Ah,
On a le Notre
d'accord.
Père qui est ju juste après la profession de foi. Voilà.
D'accord. Combien de temps ça dure un exorcisme en
Alors
général?
l'exorcisme, en tant que tel, le rituel, ça peut durer entre 45 minutes et 1 heure et demie. Il y en a qui peuvent durer très très longtemps, plusieurs heures, parce que le prêtre va reprendre. Voilà. Mais habituellement, je dirais un peu moins d'une heure. Mais en revanche, souvent, c'est à refaire, en fait. Je repense, je ne sais pas, dans ma génération, on lisait Lucky Luke, je ne sais pas si ça existe encore, mais vous
Bien sûr.
voyez, j'ai l'image de Lucky Luke à un arbre entouré d'un lasso chez les Indiens. Bah, souvent, un exorcisme, c'est comme si on enlevait 2 ou 3 tours de lasso, mais il en reste encore. Donc, il faudra refaire un exorcisme. De temps en temps, ça peut durer plusieurs mois, une année, enfin. Ça arrive, ça. Mais au bout d'un an, ben voilà, petit à petit, et on le voit, c'est magnifique, on voit les gens qui renaissent, qui revivent, physiquement ils changent. Je repense à telle femme qui a recommencé un peu à se maquiller, qui faisait plus attention à elle, ça se voyait physiquement, au niveau de ses vêtements et ça. Et ben voilà, c'était une nouvelle personne et t'es libérée. Et ça, c'est très très beau.
Ce que vous disiez, c'est que parfois vous donnez des prières à faire, etc.
Oui, mais ça, c'est
Mais comme
avant
des
la
devoirs.
libération, quoi.
Ah oui. Ah oui, c'est avant, d'accord.
Voilà, mais après, ils sont libres, et après, moi, je veux surtout pas les garder. Donc, qu'ils aillent en paroisse, qu'ils fréquentent leur très bon curé, leur aumônerie, leur paroisse et tout. Enfin.
Est-ce que c'est toujours efficace un exorcisme?
Alors, on n'est pas dans l'ordre de la magie. Donc, il n'y a pas d'abracadabra à un moment, c'est une prière. Donc, ça revient un peu à la même chose si vous disiez, est-ce qu'une prière est toujours efficace? Oui et non. C'est-à-dire, Dieu entend nos prières et il en fait quelque chose. C'est mystérieux. De temps en temps, on aimerait qu'il réagisse plus vite à nos prières, à nos demandes et tout ça. Donc, l'exorcisme, non, la libération n'est pas toujours au bout. Et de temps en temps, on peut se décourager un peu. Oui, c'est mystérieux ça.
J'ai l'image des exorcismes avec des personnes sanglées, etc., qu'on voit parfois. Enfin, je ne sais pas si c'est les représentations des films, etc. Quelles sont les dispositions que vous prenez? Parce que j'imagine que quelqu'un qui se fait exorciser est quand même assez impressionnant. Quelles dispositions vous prenez pour votre sécurité?
Alors, je ne le fais pas tout seul d'abord. On est une équipe de 5 ou 6 à chaque fois. Donc, dans cette équipe, il y a un autre prêtre, il y a un diacre, il y a 3 laïcs, dont une religieuse, il y a un médecin. Deux monsieur un peu costauds, tantôt qui peuvent aider. Enfin, parce que voilà, il y a un moment pendant l'exorcisme, ça peut être dès le début, ça peut être au milieu, ça peut être vers la fin. On sent qu'il y a un switch qui se fait en fait. C'est ça qui est un peu dur à vivre. C'est qu'il y a un moment où l'exorcisme n'appelle pas le diable, mais le révèle en fait. Donc il y a un moment, on sent un peu la présence de Satan qui est là. Et donc, à ce moment-là, bah, ça va se manifester aussi dans le corps de la personne, qui se met en transe en général. Et
C'est quoi, c'est des cris, des...
ça peut être des cris, des soubresauts, des déformations un peu du corps. Et donc, à ce moment-là, il faut veiller à ce que la personne ne se blesse pas, ne me blesse pas non plus, ne blesse personne. Voilà, donc de temps en temps, il faut maintenir un peu la personne. Voilà, bon, alors les films, parce qu'évidemment, il y a un grand film qui est en train de sortir, là, qui s'appelle L'Exorciste du Vatican, qui sort en ce moment, et j'ai vu la bande-annonce. Bon, tous les films ne sont pas nuls, hein, mais la plupart le sont quand même. La plupart le sont dans le sens où le diable gagne. Alors ça, c'est des films nuls quand le diable gagne, primo. Et puis souvent, évidemment, les effets sont absolument multipliés par 1000, quoi. Moi, j'ai jamais vu un essaim d'abeille sortir de la bouche de quelqu'un. Voilà, ça peut exister, hein, mais je ne l'ai personnellement jamais vu. Donc on voit, c'est très très exagéré quand même. Et puis c'est pas très intéressant. Moi je me suis rendu compte, au début j'étais très impressionné par les hurlements. J'ai eu une petite dame, mais vraiment toute petite, un jour, qui a hurlé. J'ai eu le tympan mais enfin, bouché pendant 2 jours, quoi. Tellement il a hurlé. Et ça m'a presque fait rire. Je me dis, mais comment un son aussi épouvantable peut sortir d'une aussi petite personne, quoi? Bon, au début j'étais un peu impressionné par ça. Après je me suis dit, c'est des grimaces tout ça. Ça fait penser aux gargouilles, vous savez, qui sont à l'extérieur des cathédrales, les horribles statues de diable avec une langue qui pend et tout ça. C'est un peu pareil. Eh ben, c'est pas très intéressant. Moi, j'essaye de rester concentré sur la prière et d'y aller. J'ai foi en Dieu, j'ai foi en Jésus-Christ, j'ai foi en sa puissance. J'ai aucune foi dans ma puissance à moi, j'en ai aucune. Ce qui m'intéresse, c'est la force de Jésus-Christ, la Sainte Église de Dieu aussi, à qui il a confié aussi ça, il confie ça à ses apôtres. Qui chasse les démons, bah, c'est ce qu'on fait.
J'y reviendrai un peu à la fin sur votre rapport un petit peu à l'exorcisme et au diable. Mais peut-être est-ce que vous pouvez nous, enfin, est-ce que vous avez eu un cas un jour particulièrement extrême qui vous a fait peur, qui vous a inquiété ou quel a été votre cas le plus impressionnant?
Bon, écoutez, j'ai pas tellement envie d'en parler, mais je vous dis, il y a souvent des cas comme ça, avec des transes. Ou des hurlements, t'entends, je sens que je suis observé aussi par le diable, enfin, donc avec des yeux un peu noirs, et voilà, bon, bah, c'est pas un regard très agréable à
Oui, je vois.
croiser, voilà, donc oh, je me suis fait insulter plusieurs
Ouais, c'est ça. Est-ce que
fois.
le diable il peut s'adresser à vous à
Ah
travers ça?
oui.
Ouais.
Vu que j'étais un gros nul, et que de toute façon il avait pas peur de moi, Et voilà, alors moi je j'écoute pas, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est Dieu et sa puissance. Et donc je continue. Et c'est vrai que je suis un pauvre petit homme, hein, donc il a raison là-dessus. Mais ce qui m'intéresse, c'est la puissance de Dieu et de l'Église par rapport à lui. Et là, il tremble quand on se met dans cette disposition, quoi.
D'accord. Et est-ce que le... Donc c'est une question aussi qui est revenue pas mal sur Instagram. Est-ce que le diable peut aller jusqu'à tuer une personne? En fait, parce que vous disiez qu'elle ne pouvait pas prendre possession de l'âme, mais du corps, oui. Est-ce que le diable peut faire n'importe quoi au corps et aller jusqu'à faire que la personne se tue, quoi?
Alors oui. Vraiment le moment où le diable est le plus heureux, c'est quand quelqu'un se suicide particulièrement. C'est encore pire qu'un meurtre en fait, parce que c'est vraiment la négation. Il a tué l'espérance dans le cœur de quelqu'un jusqu'au suicide. Et par exemple, on a parmi les gens qui viennent nous voir, donc il y a souvent des gens qui ont fait de la sorcellerie et tout ça, et ils pourraient avoir aussi vous savez, des satanistes, des gens qui participent à des cultes sataniques et tout. Je dois avouer que moi j'en vois très très peu, parce qu'en fait ils n'arrivent pas à venir jusqu'à chez nous, et beaucoup se suicident avant en fait, hein. Ou par la drogue, par tout un tas d'excès. Des gens tellement désespérés qu'ils n'arrivent même pas à. J'en ai vu une fois, il n'arrivait pas à rentrer dans mon bureau, quoi. Enfin, j'ai dû un peu le pousser dans le dos pour dire, allez, vous avez fait le plus dur, entrez. Une fois qu'il est rentré, c'était plus facile. Mais donc voilà, je pense pas qu'on puisse incriminer le diable pour un tueur en série et tout ça. Ce serait quelqu'un qui serait peut-être complètement abîmé par le mal, qui n'aurait aucun discernement moral par sa faute. Oui, ben là, le diable est à l'œuvre, oui. Mais je fais toujours attention quand même à dire, attention, vous avez votre liberté. Il reste toujours un petit bout de liberté, et c'est à ce petit bout de liberté que je m'adresse en général quand je reçois les gens. Allez, on va essayer de faire grandir un peu cette part de liberté. C'est long, mais c'est beau aussi, c'est un vrai chemin de libération qui se fait.
Vous avez parlé des satanistes. Est-ce que vous sentez qu'il y a un profil que vous voyez particulièrement? Est-ce que en fait le diable peut s'attaquer à de fervents pratiquants?
Alors, il y a deux questions. Le profil que je vois le plus, c'est quand même des gens qui ont pratiqué la sorcellerie, fait de la magie, eu recours à tout un tas de médecines louches, etc. Ça, c'est le cas maximal. La seconde question, c'est est-ce que le diable peut s'attaquer à des gens qui ont une vie pieuse, qui ne fréquentent pas ces sorciers, etc. La réponse est oui. Alors, c'est assez rare. Mais j'ai eu de temps en temps des cas de personnes très chrétiennes, très saintes, et qui étaient attaquées à cause de leur sainteté. Alors elles n'étaient pas possédées au sens où les autres peuvent l'être, mais par exemple, c'est surtout il y a surtout des grosses conséquences spirituelles, des gens qui, du jour au lendemain, n'arrivent plus à prier, ont du mal à rentrer dans une église, n'arrivent plus à communier, ont des insultes qui naissent dans leur cœur quand ils prient la Sainte Vierge. Et c'est très très dur. Donc là, ça demande un accompagnement très précis pour ces gens-là, et que j'ai essayé de faire à l'époque, parce que cette femme souffrait énormément de ça, parce qu'elle aimait beaucoup Dieu, mais quand elle avait envie de prier, c'était des insultes qui sortaient de son cœur. C'était une mère de famille, enfin, qui n'avait jamais touché à quoi que ce soit de malsain dans sa vie au niveau spirituel.
Ouais, c'est vrai qu'on a même des images de saints comme Padre Pio qui en fait
Bien
ont
sûr,
pas
il y a
mal
plein de
lutté.
saints. Je pense à Mariam de Jésus crucifié, qui est une carmélite qui vivait à Nazareth. Alors elle a été complètement possédée, elle a été exorcisée des dizaines de fois par son père spirituel. Mais c'est une grande sainte, elle était béatifiée, canonisée, je crois, par Jean-Paul II il y a quelques dizaines d'années. Donc beaucoup de saints ont vécu ça. Hein.
Et sur les gens qui viennent vous voir, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de leur propre démarche ou c'est parfois d'autres personnes qui les poussent vers vous?
Il y a les deux, mais c'est souvent les gens eux-mêmes qui sentent qu'ils se sentent entravés, pris vraiment, enchaînés, et ils viennent demander un désenchaînement, une libération en fait.
Il y a pas mal Là, on sort un petit peu de l'exorcisme directement, mais plus des portes d'entrée en fait du mal peut-être, avec les mauvaises pratiques qu'on voit pas mal aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez on voit beaucoup par exemple gens qui se tournent vers le yoga, l'astrologie, le tirage de cartes, la voyance, les pierres aussi. Quel est le mal là-dedans?
Alors, il faut regarder précisément chacune des choses dont vous avez parlé. J'essaie de ne pas avoir une parole trop définitive sur ces choses-là, et pour prendre un peu de recul et dire, finalement, nous ne devons jamais laisser de côté notre raison et notre intelligence. Donc, moi, je veux bien qu'une pierre apporte quelque chose de positif, mais quoi? Enfin, une pierre, c'est une pierre. Faut arrêter, une pierre c'est une pierre. Donc qu'est-ce que ça apporte de positif? Et ce qui peut être dangereux, c'est de croire qu'une pierre puisse apporter quelque chose de positif. Et d'où elle tient sa positivité? Quel bien va-t-elle me faire cette pierre? Qui a décidé ça? Ça, c'est très important. On peut penser à un certain nombre de thérapeutes. Je pense au Reiki, par exemple, qui est une pratique un peu de points de pression sur le corps. Bon, alors, ça peut ressembler à de la médecine chinoise. Bon, on pourrait parler de la médecine chinoise, mais je pense qu'il y a une manière de faire la médecine chinoise qui n'est pas problématique. Par contre, quand dans le Reiki, qui demande une formation un peu chamanique quand même, au moment d'un point de pression, le maître Reiki dit une formule ou adresse une prière à qui on ne sait pas, je suis désolé, moi je dis halte là, je dis attention, danger. Et beaucoup de gens qui ont vécu le Reiki se sont chopés vraiment des gros gros problèmes spirituels après. Hein. Donc faut faire attention, faut pas croire n'importe qui. Aujourd'hui, il y a un grand flou là-dessus. Je dis pas que ces gens sont forcément mauvais, mais je pense qu'ils sont souvent ignorants et ignorants des forces qu'ils mettent en œuvre, en fait.
Et il y a aussi cette pratique parfois d'appeler des esprits. Alors, esprit, es-tu là, etc.
Ah
Est-ce
oui, ça
que
c'est catastrophique,
ça
ça.
marche?
Ah oui, c'est catastrophique. Donc pourquoi? Pas à cause des rituels eux-mêmes. Les rituels, c'est naze. Pardon de parler comme ça, mais c'est naze. Il n'y a aucune force dans le rituel, ni aucune force dans les sorciers. Mais d'où les sorciers tirent-ils leur puissance? Ni d'eux-mêmes, ni de leur rituel. Ça, je suis catégorique là-dessus. Tout ça, c'est de la poussière au vent. Par contre, ça tire son efficacité du diable lui-même, parce que le diable est un paresseux. Et évidemment, Dieu n'écoute pas les prières que font les sorciers, parce que ce sont des mauvaises prières. Mais le diable, il est là, il est content. Donc, il peut donner de la puissance au rituel ou aux choses. Et la seconde chose qui donne de la puissance, c'est la peur. Plus on a peur, plus l'emprise est grande. Donc, on peut déjà agir là-dessus, en disant, non, j'oublie, il ne faut pas que j'oublie que je suis le Fils du Père éternel, le frère de Jésus-Christ, que je vous ai dit tout à l'heure, le temple du Saint-Esprit. Et ça me rend fort. Ensuite, contre le diable, il y a les prières de libération, et puis petit à petit, se tourner davantage vers Jésus-Christ quand on est tenté, etc. Donc, vous voyez, quand on appelle un esprit en jouant avec le Ouija ou des choses comme ça, et ben là, c'est pas compliqué, on ouvre la porte grand. Alors donc, j'invite les jeunes particulièrement à ne jamais faire ça. Et si vous êtes pris dans une bande et que quelqu'un fait ça, et si vous êtes chrétien, je vous invite à faire semblant. Et intérieurement, vous dites déjà, vous c'est le Marie, avec la certitude intérieure que vous allez foutre en l'air la soirée. Et ça marche très bien. Donc si, mais le mieux c'est de pas y participer. Hein. Mais si vous êtes obligé d'y participer, eh ben priez, vous allez tout mettre par terre. C'est très bien.
Ok, alors j'ai essayé de pas trop rentrer dans le détail parce qu'il y a eu toute une ribambelle de pratiques, etc.
Oui.
Voilà, mais peut-être aussi sur la communication avec les morts. Il y a des gens qui disent communiquer avec les morts, etc. Est-ce que là aussi, quand quelqu'un dit s'adresser à un mort, c'est le diable qui répond, en fait, à qui il s'adresse?
Alors d'abord, c'est une pratique interdite. Vraiment interdite par l'Église et interdite par la Bible. Donc il y a une longue tradition de plusieurs milliers d'années où on interdit ça. On peut peut-être faire confiance à la sagesse humaine sur plusieurs milliers d'années pour la croire. Donc moi je dis, faut pas faire ça. Pourquoi faut pas faire ça? Parce que les morts ne parlent pas, les morts sont morts. Et les morts sont ou au purgatoire, ou en enfer, ou au ciel déjà. Et pour nous, la bonne manière de communiquer avec nos morts, c'est de prier pour eux. Et on prie pour eux hein, dans l'Église catholique, surtout à la messe. On offre les messes pour les défunts. Hein. Donc, si vous voulez, au lieu de vouloir parler avec votre grand-mère qui est morte et que vous aimiez beaucoup, moi j'aimerais bien parler avec ma mamie à moi que j'aimais beaucoup, ou la mère de ma mère, ou la mère de mon père qui sont décédés, j'aimerais beaucoup leur parler. Mais en fait, j'en ai pas besoin, parce que je suis en contact tous les jours avec elle. Et je les sens vivantes à mes côtés et j'ai pas envie qu'elles me révèlent quoi que ce soit. C'est le diable, comme vous disiez tout à l'heure, qui parle quand on entend la voix de sa grand-mère. C'est le diable qui parle, c'est pas notre grand-mère. Hein. Donc peut-être, alors il imite bien la voix de notre grand-mère, il peut imiter plein de choses. Hein, c'est mieux, beaucoup mieux qu'une IA, le diable. Il sait tout avec une finesse
ChatGPT 10.
très. ChatGPT, c'est rien pour lui. Donc, il est puissant par son observation, il nous connaît bien, et Et il connaissait très bien notre grand-mère aussi. Donc il peut y prendre sa voix sans problème. Ne jamais parler avec les morts. C'est un péché d'ailleurs. Si des catholiques ont fait ça, il faut absolument aller s'en confesser. C'est un grave péché contre Dieu.
D'accord, et une dernière question sur les mauvaises pratiques, entre guillemets, peut-être un peu plus naïve, mais quel rapport on doit avoir en tant que chrétien sur les films d'horreur? Est-ce que c'est mauvais de regarder un film d'horreur?
Alors, je pense que c'est pas très bon. Bon, voilà, écoutez, on va pas faire la censure. À chacun de s'examiner un peu là-dessus. On est des êtres qui ont des sensibilités diverses. Ne nous croyons pas trop forts face à la laideur et à l'agression des images mauvaises, en fait, qui peuvent profondément nous marquer. Moi, quand j'ai été nommé exorciste, j'ai regardé une quarantaine de films d'horreur. Ben, je peux vous dire, j'ai sursauté quand même. Et voilà, bon, au bout d'un moment, ils ont tous à peu près les mêmes codes, les mêmes enchaînements et tout ça, mais ils peuvent nous marquer. Donc moi, j'invite les gens qui nous écoutent peut-être à faire gaffe là-dessus et à se connaître soi-même. On n'est pas obligé d'aller à chaque fois dans l'horreur encore plus. C'est quand même tout un. Quand on rajoute à ça l'univers des jeux vidéo, qui est quand même souvent assez sombre, peuplé de démons, etc. Enfin, il y a un moment, voilà, vous choisissez vos amis, bah, choisissez les images que si vous voulez passer votre vie dans des lieux souterrains, rouges, avec des monstres, des gens malsains, des mutilations, des choses comme ça. Enfin, voilà, c'est quand même un milieu que vous souhaitez pas pour les gens que vous aimez. Ben, fuyez-le vous-même, il peut avoir un attrait assez malsain. Bon voilà, ensuite, si vous regardez ça avec une bonne bière et quelques potes, un jour pour vous faire peur, c'est pas la fin du monde non plus. Il faut pas non plus exagérer, mais faut être attentif et faut se connaître. Et puis, ben, il y a plein d'autres films qui existent, qui sont pas mal aussi. Hein.
Je vois souvent passer sur Instagram des délivrances de pasteurs protestants, évangéliques, etc. Je vais vous montrer des vidéos. J'en ai une ou deux là. Parce que ça me questionne toujours et je trouve ça, enfin, en fait, ça pullule un peu sur les réseaux sociaux et on voit des gens dans les commentaires qui rendent grâce à Dieu, etc. Moi, ça me trouble toujours un peu parce que j'ai l'impression que c'est un peu Hollywood et vous allez me dire ce que vous en pensez.
Oui, j'ai déjà vu ça.
Je vous montre juste une petite deuxième comme ça, parce que là ils font vraiment en groupe. Voilà, comment réagir à ça quand on est
Alors, assez
exorciste?
mal en fait, hein. C'est-à-dire, nous, dans justement les préconisations qu'on nous donne vis-à-vis de l'exorcisme, c'est toujours que ce soit absolument privé. C'est-à-dire, les médias sont interdits dans les exorcismes, on n'a pas le droit de filmer ni d'enregistrer, et ça doit être dans un lieu fermé, sans regard extérieur. J'ai régulièrement des demandes de journalistes qui me demandent de venir filmer, et ça, je leur dis à chaque fois, il n'en est pas question. Voilà. Écoutez, moi, ce qui me gêne un peu dans ces manifestations de groupe comme ça, c'est les manipulations, en fait. C'est très facile de manipuler une foule. Et vous voyez, ce pasteur, il hurle, ça. Quand je regarde Jésus, dans l'évangile, il fait pas ça. Pas ça, il s'adresse à la personne, il chasse le démon, il n'en fait pas des tonnes, quoi. Enfin, pas besoin d'hurler, de manipuler, de frapper les gens. Enfin, c'est pas très évangélique. Donc, bien que ça vienne de l'évangélisme, je trouve que c'est pas très évangélique au sens premier du terme. On n'oublie pas que la personne est là encore, et c'est la personne qui souffre. Donc, évidemment, quand on parle au démon, bah, on ne lui parle pas comme quand on parle à Dieu. Donc, on s'adresse avec autorité là-dessus, sur lui. Mais on n'oublie pas cette personne qui souffre, qui est là. Donc, on doit faire même attention à son corps, vous voyez. Enfin, il existe des exorcismes dans l'islam hein, aussi, plus ou moins acceptés, mais moi, ça existe, ça s'appelle la rokia. Mais c'est une sorte de contre-magie, en fait, puisque à tel, tel problème, bah, faut réciter 30 fois la sourate, machin, boire 2 litres d'eau, ou je sais pas quoi. Et il y a eu un mort il y a quelques années, parce que les imams exorcistes, bah, ont frappé le démon avec des bâtons. Mais en fait, ils frappaient quelqu'un qui est mort.
Est-ce que ça peut quand même être Jésus qui agit sur le, enfin, dans ces exercices qu'on voit, ou est-ce que pour vous, justement, ça peut être l'action du mal qui fait croire
Ben,
à quelque chose?
j'ai un doute. Ensuite, comme je vous disais en commençant, toute l'Église est exorciste. Donc, il y a typiquement l'exorcisme catholique, mais il y a plein d'autres endroits où le diable est chassé. Quand un jeune, par exemple, invite un autre jeune à marcher vers le baptême, ou à aller à l'Église, ou à venir au JMJ, ou je sais pas quoi. Mais franchement, enfin, on ne se rend pas compte. C'est une libération pour plein de gens. Et on vit aussi notre rapprochement de Dieu comme une libération de plein de choses qui nous empêchent de vivre, de donner, d'être fécond, etc. Vous voyez? Donc, bien sûr que tout passe pas par l'exorcisme, heureusement. Et l'exorcisme, c'est 0,0001% du combat de l'Église. Mais le combat de l'Église, c'est prononcer la parole, c'est manifester la proximité de Jésus-Christ, etc. C'est plus comme ça que nourrir les pauvres, soigner les malades. Ça, c'est un exorcisme aussi. Enfin, avec des guillemets, mais c'est aussi faire reculer le mal, reculer les ténèbres. La lumière, elle parle pas avec les ténèbres. J'ai vu dans votre vidéo que l'exorciste, il interroge et tout ça, mais on n'a pas à parler au diable. Sinon, pour lui dire, casse-toi, va-t'en. T'es pas chez toi, t'es chez Dieu. Donc, fous le camp. Mais on n'a pas à lui parler, on n'a pas à l'interroger et à écouter sa science, lui qui est menteur et homicide dès l'origine.
D'accord. Et une autre question sur les manigances du diable. Certains ont posé des questions, peut-être certains venant de certaines sensibilités dans l'Église, peut-être plus traditionnelles, qui ont posé des questions, par exemple, sur le chant en langue, etc. Est-ce que, en fait, le diable pourrait s'infiltrer dans les manières de prier, être présent dans les manières de prier, finalement?
C'est un risque, ça demande du discernement. C'est pour ça que tout ce qui est nouveau, bah, doit passer au crible quand même de l'autorité de l'Église. Et je pense que c'est important. Alors voilà, je m'exprime pas sur. T'entends, les charismes. Saint Paul nous parle de charisme quand même, donc c'est quand même quelqu'un d'important, Saint Paul. Mais ça demande toujours le discernement de l'Église. C'est pas parce que c'est dans Saint Paul que ce que je fais moi, bah, ça vient de Saint Paul. Non. Attention, il y a aussi toujours l'Église qui est notre mère et qui a besoin d'éduquer ses enfants, moi le premier. Donc faut une certaine prudence, faut pas courir vers tout ce qui est nouveau non plus. La tradition est une belle chose.
Avez-vous un suivi psychologique et spirituel?
Alors psychologique, non, j'en ai pas eu besoin pour l'instant. J'espère que ça durera. Et puis spirituel, bien sûr, oui. On a besoin aussi, en tant que prêtre exorciste, faut rester quelqu'un de joyeux quand même. C'est-à-dire, faut peut-être pas faire ça toute sa vie, parce que on pourrait terminer par être un peu binaire, blanc, noir, mal, bien. Bon, j'essaie d'être vigilant là-dessus, mais oui, on a besoin de s'entourer aussi de la protection de l'Église, de se confesser souvent, et puis d'être humble, parce que, passer encore une fois, ce n'est pas moi qui suis à l'œuvre vraiment dans. Quand j'agis, je me prête un peu à l'Église. Mon évêque m'a envoyé. Je vais vous dire un petit truc, mais au début, j'avais peur un peu quand il y avait un peu ce switch qui se faisait dans l'exorcisme, et parce que je me situais pas très bien. Et j'ai une image, moi je marche beaucoup par image, et je m'imagine au moment où je serais tenté d'avoir peur, je m'imagine place Saint-Pierre, avec le pape François derrière, et mon évêque derrière, qui me disent « Vas-y! » Et bien j'y vais. Et c'est l'Église, vous voyez, qui est à l'œuvre. Et j'aime bien aussi la petite équipe que j'ai avec moi, parce qu'ils me soutiennent bien, ils prient avec moi, ils s'occupent un peu de la personne. Et ça, pour moi, c'est une grande force aussi.
Et est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que vous avez pas peur du diable? Vous sentez jamais faible face au diable?
Si, 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 on peut se sentir très faible. Et il sait appuyer là où ça fait mal. Donc il nous connaît très bien. Donc. Il s'est appuyé là où ça fait mal, au niveau du désespoir, dire, tantôt je me dis, je vais jamais m'en sortir avec cette personne, elle est complètement à l'ennemi. Et puis tout de suite, je me dis, attends, souviens-toi, place Saint-Pierre. Et puis je repense donc justement à la force de Jésus-Christ, qui veut tous nous libérer. Et j'ai confiance, j'ai beaucoup plus foi en Dieu que peur du diable. Libérer les gens, c'est un beau ministère, hein. Très beau ministère. J'ai eu, je me souviens, trois jeunes filles malgaches là, qui étaient venues, qui avaient amené leur petite sœur qui allait très mal. Il y avait un côté psychiatrique assez important, mais il y avait aussi quelque chose de spirituel. Et j'avais fait une prière, c'était pas un exorcisme, mais j'avais fait une prière de libération avec elles trois et la jeune femme qui avait 16-17 ans. Et elles sont revenues 2 mois après. Je me suis dit, bon, bah, ça n'a pas dû marcher et tout ça. Et donc, je vois quatre jeunes femmes très sympathiques, très joyeuses, y compris celles pour qui j'avais prié. Et elles me disent, on voulait venir pour vous remercier. Et on va vous chanter un magnificat en malgache. Et donc, elles avaient fait un magnificat à plusieurs voix. C'était magnifique. Et pour me remercier, j'ai dit, on va remercier le bon Dieu surtout. Et elles ont chanté le magnificat ici. Et j'étais au bord des larmes parce que j'ai trouvé ça vraiment très beau, quoi. Et qu'elle vienne dire merci, c'était tout à fait évangélique et magnifique.
C'est une bonne conclusion. Et bien, est-ce que pour dire un dernier mot, est-ce que vous avez un petit mot à dire éventuellement aux jeunes notamment qui nous regardent?
Et bien, je vous redis la phrase la plus fréquente des Écritures, ne crains pas, n'aie pas peur, n'ayez pas peur. Donc il faut vraiment tourner toute notre foi vers Dieu, surtout au moment où on se sent attaqué, vous tournez vraiment vers Dieu. Au moment même où vous ressentez quelque chose qui vous fait mal, vous tournez. Il y a deux choses à faire. Vous adorez Dieu. Mon Dieu, je vous adore de tout mon cœur. Et mon Dieu, venez à mon aide. Voilà, vous faites ces deux prières. C'est un peu un résumé de mon petit livre, La citadelle imprenable.
Merci beaucoup, mon père, de nous avoir accordé cet entretien. Merci
Avec
d'avoir répondu
joie.
À toutes ces questions. Je pense que ça fera des heureux sur les réseaux sociaux. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'est la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like. Allez voir aussi le livre du père, donc La citadelle imprenable. C'est ça. N'hésitez pas à lâcher. Je suis sûr qu'il y a plein de choses intéressantes dedans. Et on se dit à très bientôt. Alors, il y a un petit mot de la fin sur la chaîne. C'est « Et que la paix soit avec vous ». Est-ce que vous pouvez le faire ?«
Et que la paix soit avec vous ».